Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On est très en retard, mais c'est de la radio. Et Monsieur Ruet, qui est resté avec nous d'ailleurs, était tellement intéressant à écouter et peut-être à décrypter qu'on a pris quelques secondes de retard. On est avec Yann, qui habite Marseille, visiblement, qui est commercial. Vous avez écouté Monsieur Ruet. Vous allez peut-être pouvoir discuter avec lui, Yann.
Ben avec grand plaisir, évidemment.
Donc vous êtes dans un quartier de Marseille. Le flash, voilà. Avec le rappel des titres, plus exactement avec Amandine.
Et à la une, la France qui durcit les conditions d'accès aux visas à l'égard des pays du Maghreb. C'est ce qu'a annoncé ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Sont concernés le Maroc, l'Algérie et la Tunisie qui refusent, dit le porte-parole, de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. Dans l'actualité également, Sanofi qui renonce à son vaccin ARN messager. Le laboratoire l'a annoncé ce matin concernant la crise des sous-marins avec l'Australie. Première prise de parole publique pour Emmanuel Macron. C'était tout à l'heure, lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre grec. Le président évoque la nécessité pour l'Europe de ne plus être dépendant des États-Unis. Il y a du foot ce soir. PSG Manchester City, c'est de la Ligue des Champions bien sûr. Côté météo, Peggy Broche, c'est mieux. Ça, on l'a tous constaté. Oui. Mais c'est plus frais.
Exactement, on perd 2-3 degrés par endroit pour cet après-midi. 17 à Brest, 19 à Rennes et Lille et Paris, 20 degrés à Strasbourg, 21 à Lyon, 22 à Bordeaux, 23 à Toulouse, 25 à Nîmes et 26 à Toulon. Alors côté ciel, vous l'avez dit Amandine, c'est mieux. Un temps plus sec, entre nuages et éclaircies sur la moitié nord, plus de soleil malgré un léger voile sur la moitié sud, excepté sur les Alpes où les nuages sont nombreux. Et puis cette nouvelle perturbation arrivée ce matin par l'ouest. Alors elle progresse lentement, elle concerne essentiellement la Bretagne avec des averses et du vent. Et le ciel est chargé entre la Vendée et le Nord, avec de rares averses, comme dans le sud-ouest d'ailleurs, entre l'Aquitaine et l'ouest du Massif central.
Et pour demain, retour de la pluie, si j'ai bien compris.
Et oui, parce qu'en fait, cette perturbation, elle va progresser. On va la retrouver demain matin entre le sud-ouest et les frontières du Nord, avec de bonnes pluies. De part et d'autre, de belles éclaircies, même si une petite ondée est possible, sera possible sur le littoral de la Manche. Et puis dans l'après-midi, la perturbation, elle va progresser et se morceler. Ce sera surtout nuageux, avec quelques averses éparses entre les Pyrénées et les frontières de l'Est. Ça restera beau, mais légèrement voilé près de la Méditerranée et sur le Nord. Et en allant vers l'Atlantique, de belles éclaircies malgré une petite ondée possible au nord de la Seine. Les températures, elles seront comprises entre 8 et 13 degrés au nord demain matin, jusqu'à 18 à Perpignan. Et les maximales, elles vont baisser encore un petit peu, mais on sera quand même proche des valeurs de saison. Exactement,
c'est
l'automne
qui arrive.
De 16 à 19 degrés au nord, c'est ça.
Puis après, ce sera l'hiver.
Voilà, de 18 à 21 au sud, jusqu'à 26 près de la Méditerranée. Et vous avez tout
ça,
bon.
Ça, c'est ça qui est fou.
Vous aimez l'automne, vous, c'est ça hein.
Ouais, moi j'adore. Ouais. Mais dans les saisons intermédiaires, comme ça, il y a beaucoup de différences hein, entre Paris et Ajaccio.
Ah bah ça c'est clair, on est bien d'accord. On a envie d'être dans le sud.
C'est des choses essentielles qu'il faut dire de temps en temps comme ça. Merci Peggy, merci Amandine, il est 13h05.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Je remercie Monsieur Ruet d'abord de jouer le jeu. Il est secrétaire général force ouvrière des agents territoriaux de la ville de Marseille et de la métropole à Aix-en-Provence. Il est resté avec nous, il va pouvoir échanger pourquoi pas avec des auditeurs. Je rappelle les faits. Les éboueurs travaillent entre 3h et 3h30 par jour à Marseille, selon un rapport de la Chambre régionale des comptes. La métropole Aix-Marseille-Provence décide de les faire travailler davantage pour un salaire inchangé. À partir de janvier, les éboueurs devront travailler 2 heures de plus par jour pour se mettre en conformité avec la loi. C'est aussi simple que soi. Hein. Aujourd'hui, le temps de travail des éboueurs est illégal. Bon, on est dans cette discussion. Yann, qui habite Marseille, qui est commercial, va pouvoir échanger avec Patrick Ruet. Rebonjour, Yann.
Oui, rebonjour, Pascal. Alors d'abord, je voudrais préciser, j'ai habité 2 ans et demi à Marseille, mais j'y suis plus. Hein.
D'accord.
Voilà, donc j'ai pu découvrir cette ville qui est formidable. Moi, j'ai adoré mon passage à Marseille. Les gens sont sympas, la ville est belle. C'est un peu bigarré, coloré, mais c'est vraiment une ville agréable. C'est la deuxième ville de France, hein, quand même. Donc c'est un sujet sérieux. Moi, cette grève des éboueurs, je trouve que c'est la photo de la compromission des politiques depuis Defferre, Vigouroux, Godin, Rubirola, Payan, qui acceptent n'importe quoi et qui se soumettent à la tyrannie des corporations. On est dans une situation, M. Ruel précisait lui-même, les gens travaillent 3 heures par jour, ils travaillent 6 jours de suite et ils ont ensuite 3 jours de repos. Mais c'est du racket, on n'est plus en République, la loi n'est plus la même pour tout le monde. Donc c'est un vrai scandale et si j'étais aux manettes, moi je dirais on envoie l'armée enlever les poubelles et on licencie tous ces gens qui sont hors la loi et on se met dans des conditions sérieuses, dans des conditions de la République française.
Alors Monsieur Ruet va vous répondre, je remarque quand même que, vous voyez Monsieur Ruet, les journalistes sont plus doux quand même parfois que certains auditeurs.
Ah, vous n'avez pas l'exclusivité des bêtises.
Oui, mais faut. Moi, je... d'abord, je vous trouve sympathique à vous écouter, mais je trouve que vous n'êtes pas beaucoup argumenté, si vous me permettez.
Oui, ben, si vous voulez, je vous le fais, là.
Ben oui, mais on n'arrive jamais à rien savoir, on ne sait pas. Vous êtes incapable de me dire aujourd'hui à quelle heure prend un éboueur non. chez vous et à quelle heure il part. Une question aussi simple que ça, vous refusez d'y répondre.
Ben parce que je vous ai expliqué qu'il y a des différents rythmes de travail, qu'il y a des différents arrondissements. Mmh. Et quand vous vous dites en présentation que c'est illégal, c'est déjà faux.
Ben, c'est pourquoi, ben pourquoi la métropole de Marseille veut à ce moment-là augmenter le nombre d'heures? C'est parce que le nombre de le temps de travail est illégal. La durée du temps de travail est illégale. Vous êtes
vous
en dessous.
Que la métropole de Marseille est très loin d'avoir l'exclusivité de ce problème-là. On l'a rencontré dans toutes les villes, à commencer par la capitale. Et quand ça se passe dans la capitale, ça n'intéresse personne.
Mais c'est réglé, surtout. C'est réglé dans les autres villes. Dans certaines villes, c'est réglé.
Oui, c'est réglé. Ils ont de l'argent, ils ont payé, c'est réglé. À Marseille, nous, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent.
Ah oui, parce que, d'accord. Donc le problème de fond, ce serait d'augmenter les éboueurs.
Ben déjà, ce serait que tous les éboueurs touchent la même chose. Vous savez, la métropole est constituée de 6 territoires. Donc, ces 6 territoires, donc on fait la métropole, et aujourd'hui, l'historique de chaque territoire est resté, si bien que d'un territoire à l'autre, par exemple, en prime, il y a plus de 200 euros d'écart pour un même travail. Donc, quand on veut faire l'unité, on le fait à tous les niveaux. On l'a fait sur le temps de travail, avec des discussions, mais on l'a fait sur le côté financier.
Bon, on va marquer une pause, mais je voudrais savoir combien gagne un éboueur aujourd'hui à Marseille.
Allô?
Oui, je voudrais savoir combien gagne un éboueur aujourd'hui à Marseille.
Ben, tout dépend de sa carrière. Il est entre 1300 et 1800 selon son ancienneté.
D'accord. Vous parlez brut ou net?
Non, en net.
En net, ben 1300 euros net ou 1800 euros net, et multiplié par 12 ou par 13?
Alors, par 12, il y a une prime de fin d'année, mais qui n'est pas une 13e mois.
D'accord. Bon, c'est important de le dire. Et puis, je le répète, hein, c'est un métier difficile, éboueur. La pénibilité, il n'y a pas de souci. Il faut être parfois en décalage, se lever tôt. Et puis, le contact des ordures rend le métier effectivement difficile. Monsieur Rué, il va avoir un deuxième auditeur qui va pouvoir vous interroger, qui habite Marseille. C'est Philippe, dans un instant. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Patrick Rué est avec nous, c'est le secrétaire général de FOA à Marseille. On est avec Étienne Baudu, vous le connaissez, c'est le correspondant permanent de RTL à Marseille. Étienne, j'ai l'impression que c'est la résurgence d'un système, le Yalta des syndicats sous Gaston Defferre, c'est-à-dire que les éboueurs, c'est FO, le port, c'est la CGT, et le rapport de force est toujours en faveur des syndicats. Et aujourd'hui, on est encore dans ce rapport-là. Est-ce que je dis vrai?
Alors, une petite précision sur ce qui est de cette négociation des 35 heures pour les éboueurs. Tous les syndicats sont à peu près d'accord, que ce soit la CGT ou FO ou FSU, ils sont à peu près sur le même mot d'ordre. La complexité du dossier, c'est que... Effectivement, il y a ce retour aux 35 heures, c'est légal, il faut le faire d'ici le 1er janvier 2022 pour tous les fonctionnaires, y compris donc pour les éboueurs. Mais évidemment, il faut mettre dans la balance la pénibilité, la dangerosité du métier, et c'est là où le bât blesse. Et ça n'est pas que marseillais, là. Par exemple, à Paris, la maire de Paris avait dit, bah, écoutez, pour prendre en compte la pénibilité, on va baisser de 20% le temps de travail des éboueurs. Ça a été retoqué par le préfet là-haut. Ici, la métropole a proposé d'une baisse de 5% pour l'instant. Mais les négociations viennent tout juste de débuter. Elles ont débuté hier. Et je me permets de dire à Monsieur Rué, que je connais bien, évidemment, on se connaît bien, et les habitants sont un peu étonnés, c'est que dans ces négociations qui sont compliquées, parce qu'on voit qu'il n'y a pas que Marseille qui est concernée, le préavis de grève était là, la CGT avait déjà commencé la semaine dernière, et FO, le préavis de grève, l'a mis en application dès hier soir. La petite question que se posent les habitants, c'est pourquoi tout de suite? Est-ce qu'il n'a pas fallait pas un peu plus négocier, puisqu'elles ont commencé hier, les négociations, sur justement les aménagements du temps de travail, justement ces 5% de baisse du temps de travail pour mettre en place ces conditions par rapport à la pénibilité et à la dangerosité. Et en même temps, peut-être d'attendre, c'est ce que d'ailleurs nous disait hier un peu le vice-président de la métropole chargé de la propreté. Il nous disait, ouais, mais bon, voilà, nous, on ne sait pas bien, c'est la loi.
Vous avez raison, et la question est essentielle, monsieur Ruet, c'est à partir du moment où vous mettez en grève dans un secteur aussi important que les éboueurs et les ordures, c'est terrible pour les gens d'abord, parce que ce sont les premières victimes, et vous imposez un rapport de force immédiatement, parce qu'on connaît les conséquences d'une grève des éboueurs, l'odeur, la saleté qui s'empile. Et tous les salariés, pardonnez-moi de le dire comme ça, ne sont pas dans cette position de force, monsieur Ruet.
Oui, alors déjà, l'intervenant a quand même une voix de la sagesse, je dirais, dans la formule qu'il a eue. Donc apparemment, il connaît bien le sujet, ce qui change un peu des autres interlocuteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous a présenté ce rapport il y a une dizaine de jours, et que donc la négociation, effectivement, devait commencer hier. Donc nous, on pensait avoir une vraie négociation, une vraie discussion.
Mais vous mettez en grève tout de suite.
Mais c'est pas bien grave tout de suite. On nous dit, voilà, ce qu'on vous a dit il y a 10 jours, ben aujourd'hui c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez le bon Dieu?
Bon, moi j'attends le bon Dieu en général, mais c'est vrai qu'il ne vient pas souvent. Il vient pas souvent. Alors, Philippe est là. Philippe qui habite Marseille. Philippe, votre avis, vous habitez dans Marseille, et votre avis, vous avez écouté les uns et les autres.
Alors, mon avis, déjà, c'est vrai que par rapport à ce que disait Yann, c'est un peu vrai. C'est-à-dire, c'est déjà la faute des politiques au départ, et ça date depuis des années. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est voilà, cette prise en otage. Voilà, des éboueurs, cette grève, il n'y a pas de négociation, on commence à peine une négociation et déjà on est en grève, on prend en otage les Marseillais. Nous, la taxe foncière, sur la taxe foncière, les ordures ménagères, c'est quasiment 20% de la taxe foncière à Marseille. Donc c'est assez important. On la paye et on n'a pas de service. En tout cas, voilà, là, la ville se détériore. Voilà. On est pris en otage, quoi. On a ce sentiment d'être pris en otage. Alors après, je peux comprendre les revendications salariales. Je peux comprendre les syndicats, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est les Marseillais qui sont pris en otage, c'est la ville qui est sale, ça devient pénible, quoi.
Alain est là également. Alain est là, qui habite Marseille. Il va pouvoir témoigner tout de suite après. Monsieur Ruet, je vous garde encore quelques secondes. Ça vous ennuie pas?
Voilà, mais pas plus, hein, parce que tu pourrais quand même que je déjeune, moi.
C'est formidable en fait d'être avec vous, parce que vous dites des choses très rudes, mais en même temps vous les dites avec tellement de sympathie qu'on a envie de sourire à chaque fois que vous parlez.
Eh bien, c'est mieux comme ça.
Bon, la pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va terminer ce dossier marseillais avec un auditeur. Alain, bonjour, vous êtes boucher, vous habitez Morteau.
Oui, bonjour Pascal.
Morteau, c'est célèbre pour la saucisse, je crois.
Exactement.
Donc j'imagine que vous vendez dans votre boucherie de la saucisse de Morteau.
Entre autres.
C'est bon?
Oui, voilà, moi je voulais intervenir parce que quand j'ai entendu que les éboueurs de Marseille se plaignaient, et quand je vois leur taux horaire, je me suis demandé si c'était un 1er avril ou pas. Je veux dire, c'est leur plainte, là, je vais vous dire, c'est indécent par rapport à deux catégories de personnes. La première, par exemple, par rapport à moi. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une boucherie. Ma plus petite journée commence à 5h et elle finit à 20h15, avec une demi-heure de pause que je m'octroie pour manger le midi. À Noël...
Oui, mais vous gagnez peut-être plus qu'un éboueur.
Oui, bon, tout le monde sait que les patrons, on a les billets de 500 euros qui nous débordent des poches. C'est bien, c'est bien sûr.
Bah, je ne dis pas ça non plus, mais vous gagnez peut-être mieux que 1300 euros net.
Eh ben, auto-horaire, si je fais mes heures par mois, puis que je divise mon salaire que je me verse, auto-horaire, je ne gagne pas 5 euros de l'heure. Voilà. Je sais pas si, à mon avis, je gagne moins qu'un éboueur à Marseille.
Non, mais il y a le salaire, et puis il y a peut-être en fin d'année les bénéfices ou les dividendes, que sais-je.
Oui, les bénéfices. Vous savez, les bénéfices, pour être sûr, pas trop payer l'impôt sur les sociétés, on réinvestit. Sans cesse. Après, mon personnel que j'ai, je suis un des rares patrons, peut-être, dans mon secteur, où je paye toutes les heures supplémentaires.
Ça, c'est bien.
Moi, je ne mets pas de RTT. Les gens ont besoin d'argent pour vivre. Donc, moi, les RTT, chez moi, je ne connais pas. Mes employés, ils ont les heures supplémentaires de payer. Après, vous donnez un exemple. À Noël, la semaine de Noël, je dors 2 heures par nuit, sauf la dernière nuit du 23 au 24, où c'est que je ne dors pas. Et quand je me mets sur la balance, le 25 décembre, je perds 9 kilos en une semaine. Mais je vais vous dire pourquoi je me plains pas. Je me plains pas parce que justement, c'est par rapport à la deuxième catégorie de personnes pour qui leur plainte à eux, aux éboueurs, est complètement indécent. Parce que je me plains pas parce que quand je me sens un peu fatigué et puis que j'ai un peu mal partout, je pense aux gens et aux gosses qui sont dans les hôpitaux, qui subissent déjà des chimiothérapies, puis qui devraient sûrement être à ma place à bosser comme des damnés plutôt que de se battre contre la maladie.
Ah, écoutez, je vais faire répondre Patrick, mais c'est vrai que peut-être nous dira-t-il que c'est pas exactement son sujet, Patrick Ruet.
Oui, bon, il y a un côté intéressant déjà, c'est que j'ai appris que mon taux existait, je savais même pas où c'était, pour s'abonner. Je pense que, en tant que boucher, ben, donc, il a un relationnel important avec la clientèle, et que donc, tous les discours qu'il fait avec les clients, il doit les compter en heures de travail. C'est quand même moins pénible que d'être derrière la benne.
Ah oui, c'est moins pénible. Vous voulez venir porter des arrières de veuve de 140 kilos sur le dos?
Oui, ben 140 kilos.
C'est la pénibilité, cher monsieur. Chaque métier a sa pénibilité. Maintenant, il faut savoir si on aime travailler ou si on aime rien foutre.
Non, honnêtement, là, Alain, moi j'ai la chance de traverser la vie dans un siège. La pénibilité de mon job, c'est pas la même que la pénibilité d'un éboueur.
Alors parler de la pénibilité d'un boucher, par exemple.
Oui,
je peux vous garantir qu'on bosse au froid, on se baisse, on porte, on est dans l'humidité et tout ça.
Oui, je suis d'accord, mais il y a des métiers plus pénibles que les autres. C'est incontestable. Et ça, c'est vrai aussi, Alain.
Pascal, quand j'étais gosse, puis je regardais les éboueux passer à Besançon, parce que mon père avait une boucherie à Besançon, les éboueux, à cette époque-là, ils n'avaient pas de camion qui soulevait les poubelles. Mmh. Ils soulevaient les poubelles, eux, à bout de bras, et puis ils les baignaient dans le camion. Mmh.
Bah, tant mieux aujourd'hui si c'est un peu moins pénible, mais il y a Bon, écoutez.
3h30 par jour, je pense pas que la pénibilité soit exceptionnelle quand même.
Bon, en tout cas, monsieur Ruet, je vais vous remercier.
Voilà. Mais vous savez, en matière de pénibilité, je trouve que cette personne est très pénible, effectivement.
Non, mais je vous assure, monsieur Ruet, je vous connais pas, c'est pas, mais je pense qu'il faut vous faire tourner dans un film, hein, parce que vous avez la bonne répartie et vous le dites comme il le faut, si vous me permettez.
Comme je le pense.
Bon, bah, merci, monsieur Ruet.
Merci à vous.
Bah, merci à vous. Et puis, je voudrais quand même un mot de conclusion d'Étienne Baudu, parce que Étienne il connaît bien le dossier, il a été plus nuancé forcément qu'on peut l'être lorsqu'on voit ça de l'extérieur et en l'occurrence de Paris. Qu'est-ce que ça illustre, d'abord, ce conflit, Étienne, et comment vous voyez la sortie de crise ?
Ben, je ne la vois pas, parce que ces négociations, ce sont des négociations, c'est les dernières, on pourrait dire, hein, puisqu'il va falloir, c'est la loi, hein, ce retour aux 35 heures, alors il va falloir négocier sur ces aménagements pour ne tenir compte, comme je le disais tout à l'heure, de la pénibilité et de la dangerosité de ce métier, qui sont réels. Hein. On est à Marseille, le temps est plus tempéré, mais enfin, il y a des nuits, hein, quand il travaille, c'est vrai que ça pique, il y a les poubelles. Il y a aussi un peu cette incivilité de certains Marseillais qui jettent un peu n'importe où, n'importe comment, qui entassent des cartons, qui entassent des poubelles et qui parfois bah, ça déborde, mais on met quand même le sac. Donc il y a cette pénibilité, mais c'est justement là où il va falloir négocier. Et je reviens tout à l'heure par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est que là, ce sont des négociations, c'est une loi nationale, il ne va plus y avoir la spécificité marseillaise, je vous rappelle, hein, il y avait le fini-parti, pas tout à fait terminé, mais qui était là, donc ça, tout ça, ça va se terminer.
Le fini-parti, c'est donc compliqué à expliquer.
Ouais, c'est assez simple, hein, en le disant, le fini-parti, c'est-à-dire dès que les éboueurs avaient fini leur tournée, eh ben, ils pouvaient partir, alors ben, ils se dépêchaient pour certains, bon, ça, c'est à peu près terminé, il y a encore des réminiscences par rapport à ces 3h30.
Ils allaient plus vite dans la tournée, c'est ce que vous voulez
dire. Un petit peu parfois, voilà. Voilà. Mais c'était l'avantage qu'il trouvait par rapport au désavantage d'être. Mais on l'a dit, il y avait des excès, la Cour des comptes l'a dit, il y avait des excès.
Bon, on a l'impression que c'est un système marseillais quand même, vous voyez,
oui,
qu'il y a Marseille, c'est pas
Pascal,
tout à fait comme les autres villes, mais voilà ce qu'on perçoit
mais Pascal,
quand même.
Mais Pascal, là, c'est une loi nationale qui doit couvrir tous les agents des collectivités. Et donc, c'est là où il va falloir négocier sur certaines choses,
et
sur la baisse
du temps
de travail.
Vous ne voyez pas de sortie de crise
possible. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on va voir ce que va dire la métropole et ce que vont répondre les syndicats.
Comme il nous reste quelques secondes avant de finir ce sujet, et figurez-vous qu'on a Bruno qui est éboueur. Donc, ça va être bien d'entendre un éboueur. Parce que je n'ai pas réussi à avoir précisément des réponses aux questions que je posais. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour, merci de m'avoir pris mon appel.
Bon, d'abord Bruno,
bonjour, Pascal.
C'est un métier particulièrement dur, ça fait combien de temps que vous le faites ?
Ça fait 38 ans que je fais ce boulot.
Bon.
38 ans, j'ai 58 ans, je me lève tous les matins à 3h50.
et vous êtes à la benne, si j'ose dire, depuis 38 ans.
Oui, j'ai commencé les poubelles, j'ai commencé Reaper derrière pendant 17 ans avec les anciennes poubelles, c'est-à-dire les poubelles avec des anses en fer, des poubelles en ferraille, sans roulette. Et maintenant, on est passé en tri sélectif depuis une dizaine d'années.
Bon, 38 ans, vous êtes très fatigué, j'imagine.
Ah, mais franchement, normalement, je prends la retraite à 60 ans parce que normalement, j'ai commencé à 16 ans. Et croyez-moi que j'attends que ça. J'en ai ras-le-bol des poubelles. Ras-le-bol.
J'imagine que c'est très dur. Je peux vous demander combien vous gagnez, Bruno ?
Mais bien sûr, avec 38 ans d'ancienneté, je suis à 2100 euros.
Net ?
Net.
Multiplié par 12 ou par 13 ?
Par 12, parce que le 13e mois est compris dans le salaire.
Bon, quel regard vous avez sur ce salaire ?
C'est-à-dire ?
Qu'est-ce que vous trouvez que c'est pas assez payé ?
Bah écoutez, 2000 euros pour 38 ans de service, en étant chauffeur, c'est pas terrible, terrible.
Là, vous êtes chauffeur aujourd'hui ?
Ah, je suis chauffeur depuis 17 ans.
Ah oui, mais donc là, vous n'êtes plus au contact de la poubelle ?
Ah, mais je donne un coup de main. J'ai mes deux reapers derrière, mais plus souvent, je suis autant derrière qu'eux, parce que moi, c'est pas une poubelle par-ci, par-là. Moi, c'est des rues complètes. Mmh. En fait, je collecte dans le nord. Hein. Mmh.
On appelle ça un reaper, celui qui met la poubelle dans la benne.
Oui, un releveur ou un reaper, c'est pareil. Mmh.
Bon, combien d'heures vous travaillez par jour ?
Bah écoutez, là, j'étais surpris ce matin, tout à l'heure, quand j'ai entendu 3h30 par jour, parce que moi, en gros, je fais 7 heures en 5 jours.
7 heures chaque jour ?
Du lundi au vendredi.
Du lundi au vendredi, c'est-à-dire que ce matin, après, par exemple, aujourd'hui, vous avez travaillé ?
Ah, je viens de finir, là.
Donc, vous avez commencé, vous avez embauché à quelle heure ?
Ah, on démarre le camion à 5h50.
Et vous avez terminé quand, la tournée ?
Et j'ai fini, était midi 40.
Bon, mais et vous êtes dans une métropole aussi ? C'est une ville qui paye ?
Ah oui, je suis la métropole lilloise, hein, je fais tous les alentours de Lille. Hein.
Donc vous faites 7 heures donc, par jour ?
Tous les jours, on fait nos 7 heures par jour.
D'accord, 7 heures par jour multiplié par 5. Et vous avez deux jours de...
Par 5. Ensuite, il y en a qui ont un repos dans la semaine, mais ils travaillent le samedi.
Restez avec nous, Bruno. Restez avec nous quelques secondes et la pause et on revient. Je dis merci à Étienne Baudu. Merci Étienne.
Merci Pascal.
Vraiment merci beaucoup de la qualité des informations que vous nous avez données sur ce dossier. Et on termine avec Bruno et puis après on enchaînera sur d'autres sujets du jour. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Venez partager votre avis au 3210, 50 centimes la minute.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je sens, Laurent Tessier, qu'à 14h20, dans le débrief, nous aurons un spécial Patrick Rué.
Je ne sais plus où donner de la tête.
Qui est vraiment un intervenant comme on rêve d'en avoir régulièrement, parce que ça, on fait de la radio. Donc, effectivement, on a besoin.
On aime les petites phrases qui
piquent. Voilà, on a parfois besoin de personnages qui sortent de l'ordinaire. Et c'était le cas.
Et c'est vrai que c'est le sujet qui vous fait réagir hein, depuis le début de l'émission sur nos réseaux sociaux, au standard. Comprenez-vous la grève des éboueurs à Marseille ? Je vous rappelle ce rapport hein, de la Chambre régionale des comptes qui estime que les éboueurs travailleraient en moyenne aujourd'hui entre 3h et 3h30 par jour sur 6 jours. La métropole leur propose 5h42 par jour. Les réactions de Yann tout à l'heure à ce mouvement.
Et c'est du racket ? On n'est plus en République. La loi n'est plus la même pour tout le monde. Donc c'est un vrai scandale. Si j'étais aux manettes, moi je dirais on envoie l'armée enlever les poubelles.
3h30 par jour sur 6 jours. Alors pas tout à fait pour Patrick Rué, le secrétaire général Force Ouvrière des agents territoriaux de Marseille. Il était votre invité dans RTL Midi. Les auditeurs ont la parole.
Il y a une manipulation des chiffres extraordinaire. Quand on dit que les éboueurs travaillent 2h30 par jour, ça veut dire que la tournée dure 3h30 par jour. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent 3h30 par jour. Il ne faut pas tout confondre. Et aujourd'hui, on est en train de stigmatiser les agents en faisant croire qu'ils ne font pas du tout leurs heures de travail.
Alors, est-ce un mouvement de grève d'un autre temps ? Cette grève vous choque-t-elle ? 3210 3210, vous pouvez continuer de nous appeler.
Et on termine avec Bruno qui est éboueur et son témoignage est formidable parce que ça fait 38 ans qu'il est éboueur. Il a commencé à l'âge de 16 ans, il attend la retraite, il est fatigué. Bruno, d'ailleurs, les jeunes qui arrivent, est-ce que c'est un métier qui attire des jeunes gens ?
Écoute Pascal, je vais vous dire une chose. Nous, on a des jeunes tous les ans parce qu'ils remplacent ceux qui sont en congé et tout. Bah, c'est plus du tout le même travail que l'époque où moi j'ai commencé. En fait, les jeunes, sans être malhonnête, bah, pour moi, c'est des fainéants. Ils montent dans le camion, ils demandent à quelle heure on finit, combien de tours on fait. En fait, ils veulent finir avant de commencer. que moi, quand j'ai commencé ça, c'était pas une question que je posais. J'allais au boulot, puis c'est tout. Mmh.
Mais ça attire quand même des jeunes ? C'est ça,
ah,
ma
oui,
question.
Oui. Il n'y a plus de boulot en France, donc les gens ils prennent le ski. Hein. Mmh. Nous, en intérimaire, on en prend beaucoup à la période des congés. Hein.
Et c'est des profils particuliers, les profils de ces jeunes ?
Ah, des profils particuliers. Enfin, ils travaillent avec les boîtes d'intérim, à des coûts, cela. Et souvent, ils reprennent les mêmes.
Il n'y a que des garçons ?
Depuis 2 ans, on a pris 3 filles.
Mmh. Et ça...
On est quand même, où je travaille, on est quand même à 1200 salariés. Hein.
Oui. Et aujourd'hui, par exemple, vous auriez 20 ans, vous referiez ce métier ?
Oui, parce que j'aime bien le boulot, mais c'est pas facile, parce que moi, je vois des gens qui ont une 60aine d'années, par tous les temps, qui fait moins 5, moins 6 l'hiver, ils sont dehors à 5, 6 heures du matin, hein, à 60 ans, vous imaginez.
Et c'est un contact que vous avez avec la population, en même temps, qui est agréable. J'ai l'impression que c'est toujours important de faire un métier qui est valorisé. J'ai l'impression que ce métier, dans le rapport qu'il a avec la population, les gens vous apprécient, vous aiment beaucoup, pour tout dire.
Ah bah écoutez, je reviens à l'auditeur précédent, alors, qu'il a dit au moment du Covid. Il a tout à fait raison. Au moment du Covid, les gens nous attendaient à la porte. Ils nous recevaient avec des dessins de poubelle, très contents. Mais maintenant que le Covid est terminé, on ne voit plus personne. Plus personne.
Bon bah écoutez, merci Bruno. C'était un choix pour vous d'être éboueur ?
Oui, je l'ai voulu. J'avais à l'époque le choix, soit l'EDF ou soit éboueur.
Et vous avez préféré être à l'air libre ?
Voilà, c'est ça.
Si j'ose dire. Vous avez des enfants, Bruno ?
Ah oui, j'ai 3 filles.
Et alors, ah bah 3 filles, donc elles auraient imaginé par exemple faire ce métier, ou elles se sont dirigées vers d'autres jobs ?
Ah bah écoutez, mes filles, j'ai mes 2 filles qui travaillent en EHPAD en Belgique, et la 3e, elle fait du ménage. Mais ils sont très fiers de ce que je fais, et moi aussi, je suis très fier de ce que je fais. Hein.
Mais ça s'entend, mais... Bruno, et vous avez bien raison d'ailleurs. Et vous avez bien raison d'être très fier de ce que vous faites.
Ah oui, si, je suis très fier. Je m'en cache pas du tout, hein. Mais alors pas du tout. Hein.
Bah, c'était
parce que les gens, ils se rendent pas compte. Mais je vais vous dire une chose. Quand j'ai commencé à mes débuts, j'ai eu un intérimaire. Bon, les gens, ils croient que c'est un boulot facile. Mais croyez-moi que sur mon camion, j'ai déjà eu un décès, hein.
Quelqu'un qui est mort pendant la tournée,
parce que le mec, il suivait pas, il s'y donnait à fond, il est mort d'une crise cardiaque derrière le camion. On croit que c'est un boulot facile, mais non, pas du tout.
Mais personne croit que c'est un boulot facile.
Pas du tout. Moi, je vous jure, je vous assure que les premiers jours que j'ai commencé, je me suis dit, j'arriverai jamais à faire ça. Je rentrais chez moi, j'avais plus de jambes. Sincèrement, j'avais plus de jambes. Je dis, comment je vais faire le lendemain ? Et au bout de 15 jours, 3 semaines, mes jambes se sont habituées. Et c'est comme ça que c'est parti.
Bruno, merci. Merci de votre chaleur du Nord. Merci de cet accent qu'on aimerait garder jusqu'à 14h30, tellement c'est un plaisir de vous écouter.
Merci.
Et si vous êtes fier de ce que vous faites, nous, on était très fiers de vous avoir pendant ces quelques minutes sur l'antenne.
Moi aussi.
La première fois que vous appelez, Bruno ?
Ah, j'ai déjà essayé, mais j'ai jamais su vous avoir. Et là, je suis très content. Vu le sujet du jour que je suis dedans, ça m'a fait un grand plaisir que vous m'appelez.
Eh ben, si vous nous rappeliez de temps en temps, moi, j'adorerais.
Ah ben, il n'y a aucun souci.
Bon, ben, merci, Bruno. Vraiment.
Pascal, je peux vous demander quelque chose en privé, sans passer à la radio, parce que ça ne regarde personne.
Eh ben, écoutez, comme j'étais à votre téléphone, je vais vous appeler en direct, comme ça, on pourra parler ensemble.
D'accord. C'est très gentil de votre part.
Merci, Bruno.
Allez, merci à vous et merci à vous.
Merci beaucoup.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il y a des jours comme ça où on a des formidables auditeurs. Tous les jours, on a des excellents auditeurs. Mais il y a des jours avec Bruno, qui était éboueur, avec Monsieur Ruet, qui était marseillais. En plus, on a des accents aujourd'hui, des voix de France.
Et tous les jours, c'est la vraie vie qui s'exprime.
Exactement, c'est la vraie vie. Vous avez parfaitement raison.
J'aime bien cette phrase. Vous pouvez nous appeler pour réagir sur d'autres sujets. Par exemple, la flambée des prix de l'énergie doit-elle être le sujet prioritaire de la présidentielle ? Depuis janvier, RTL a fait le calcul. Le prix du gaz a bondi de 57% pour près de 3 millions de foyers qui sont concernés par les tarifs réglementés. Au final, l'addition est très salée. Le professeur Martial You nous le rappelait dans RTL Midi.
Si on prend une famille type qui a 800 euros de budget de chauffage au gaz par an, la hausse depuis janvier, c'est 456 euros de plus. C'est énorme. Ouais. 750 euros après de facture d'électricité, c'est à peu près la moyenne. Là, on compte 2% de hausse, donc c'est 15 euros simplement de plus depuis un an, mais ça va progresser dans les prochains mois, on le sait. Et puis enfin, si la famille comme il roule avec une voiture au sans-plomb 98, budget 1000 euros à peu près d'essence par an, et bien là, la facture à la pompe, elle s'est alourdie de 160 euros. Donc, vous ajoutez tout ça, depuis janvier, cette famille paie 631 euros de plus pour son poste carburant énergie.
Gaz, électricité, carburant, dites-nous ce que cela représente sur votre facture. Nous vous attendons dès maintenant au standard 3210.
Et on termine ce chapitre marseillais, éboueur, mais tant de travail dans les collectivités locales, avec Michel qui est chef d'entreprise à Toulouse. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Ah, ça c'est l'accent de Toulouse aussi.
Oui, tout à fait. Le témoignage de Bruno était remarquable parce qu'il parlait de son métier, mais dans le travail. Et ce qui me scandalise dans l'inactivité des éboueurs marseillais, c'est qu'ils prennent en otage la population, les commerçants, ils prennent en otage les entreprises et ils sont dans l'hyper-négociation. Et il me semble que les régies sont un peu dans ce fonctionnement. Mais le problème des Marseillais, j'adore la Provence. J'adore Marseille, mais j'ai l'impression qu'à une époque, ils ont bousillé la SNCN. Après, ils ont bousillé le port autonome, qui aurait pu être le plus grand port de la Méditerranée. Et maintenant, les entreprises partent plutôt en Espagne. Et là, j'ai l'impression qu'ils bousillent un petit peu ce qu'ils touchent et qu'ils cassent leur image. Parce qu'effectivement, le temps de travail qu'ils ont, il y a un moment où c'est inconcevable. Là où tous les Français ou une grande partie des professions se serrent la ceinture et font en sorte de travailler plus différemment suite aux différents problèmes économiques qu'on a eus, on a l'impression que l'hyper-négociation et l'interlocuteur syndicaliste qui a légitimé ce fonctionnement a eu effectivement une vision aberrante parce que à un moment donné, comme on dit, il faut faire ses 35 heures, il faut bosser. Effectivement, les poubelles ne sont plus des années 30, elles sont maintenant motorisées, c'est difficile, c'est vrai qu'il faut se lever tôt, mais moi je connais sur Toulouse un garçon qui est dans le service de la régie, qui a fait sa matinée, enfin, sa nuit de levage de poubelles, et après qui travaille, qui a sa seconde activité d'artisan électricien, parce qu'il a un temps qui lui est donné, et il se régale. Et je crois vraiment que la grosse problématique aujourd'hui, elle est que il va falloir que tout le monde fasse des efforts pour ne pas tomber dans l'excès, parce qu'au bout d'un moment, trop de négociations va tuer la négociation, et c'est un fonctionnement qui me paraît complètement aberrant et inefficace et inexact dans la solidarité à travers les travailleurs et le travail en France.
Bah merci de ce témoignage. Vous êtes chef d'entreprise et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se reconnaîtront dans ce travail, ce qui est global d'ailleurs, parce que si on voit les 30 dernières années en France, on travaille moins que les autres. C'est ça la réalité. On travaille
moi,
moins.
Moi, je suis chef d'entreprise dans le bâtiment, Pascal. Donc ouais. Je sais ce que c'est que la pénibilité et la difficulté de mes gars qui se lèvent tôt, qui sont à 7 heures du matin sur les chantiers, etc. Donc je ne suis pas un extrémiste, je dirais, de l'exagération au niveau du travail et des mauvaises conditions de travail. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut lever le pied dans la négo excessive. Quoi.
Non, mais on travaille moins que les autres et on a eu la bonne idée de faire les 35 heures en France. Donc effectivement,
faisons au moins 35 heures.
Mais quand on voit la différence entre l'Allemagne et nous, depuis des années, les Allemands ont des meilleurs résultats que nous, les Allemands ont moins de chômage que nous, les Allemands travaillent également plus que nous et parfois les Allemands gagnent forcément également mieux leur vie que nous. Monsieur Olivier, que je n'ai pas appelé aujourd'hui.
Et non, pas encore.
Et ça me manquait.
Mais j'ai eu un petit peu peur. Hein.
Olivier de Facebook.
De Facebook.
Comment allez-vous, Olivier de Facebook?
Très bien.
On
Pascal,
a les noblesses
bien.
Qu'on peut.
Et oui, non, mais c'est vrai. Vous savez que par rapport aux poubelles, Pascal, oui. Je procrastinais beaucoup. Oui. Mais heureusement que ma grand-mère, ma grand-mère me mettait entre guillemets des coups de pied au derrière pour que je le fasse et ça m'a bien éduqué.
Je n'ai rien compris à ce que vous m'avez dit. C'était quel est le rapport entre votre grand-mère et les poubelles?
Eh bien, je ne les sortais pas et ma grand-mère m'a bien éduqué là-dessus et ça a favorisé mon éducation.
C'est-à-dire que votre grand-mère qui vous a élevé manifestement
En partie, avec ma mère aussi, c'était
d'accord.
Sympa.
D'accord, donc vous sortiez les poubelles parce que vous ne vouliez pas les sortir, parce que vous étiez peut-être en maison.
Oui, c'est ça, et puis assez flemmard, il faut le dire aussi. Voilà,
oui, c'est intéressant.
Voilà.
Et autrement, vous avez un autre témoignage personnel de votre enfance à nous rapporter?
Non, pas tout de suite, Pascal, peut-être les réseaux sociaux.
Oui,
allez-y. Allez, on y va. Donc Anne nous écrit, je fais 45 heures par semaine et vous ne m'entendrez jamais me plaindre. Donc les éboueurs de Marseille m'exaspèrent à l'inverse pour Maxime. Leur cri de détresse est légitime. 35 heures dans leur profession en vaut largement 170 dans d'autres. Pour conclure, Jean-Yves, habitant de Marseille, s'énerve. Sur notre page Facebook, je ne reconnais plus ma ville. Elle devient un géant dépendant. dépotoir.
Eh bien, écoutez, nous avons marqué une pause. Et puis, je vois que Jean-Alphonse Richard est là, en régie. Il va venir, comme tous les jours, nous annoncer le programme de l'heure du crime. Mais nous allons changer de sujet. On va parler de la violence sur les hommes politiques. Vous savez que hier, à la fois, Emmanuel Macron, président de la République, et Éric Zemmour ont été agressés tous les deux, l'un verbalement et l'autre on a lancé un œuf sur le président de la République. Vous allez pouvoir réagir sur ce sujet-là tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets. La France va durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Annonce du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce matin. La raison, Thomas Pruteau.
Parce que les trois pays du Maghreb, Algérie en tête, sont accusés de ne plus reprendre leurs sans-papiers interpellés en France. Pour expulser un étranger, il faut en effet un laissez-passer consulaire du pays d'origine. Avec l'épidémie de Covid, les expulsions se sont interrompues, c'est logique, mais elles ne reprennent pas. Et Paris en rend responsable Tunis, Alger et Rabat.
La réaction de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France.
C'est un pur effet d'annonce, sans aucune crédibilité. Il n'y a aucune cohérence dans son annonce, puisqu'il ne se donne pas les moyens de réussir cette division du nombre de visas. Pour deux raisons très simples, c'est qu'il ne veut pas contrôler les frontières et qu'il laisse l'espace Schengen ouvert. Et deuxièmement, c'est qu'il ne remet pas en cause le regroupement familial qui est la principale cause d'arrivée sur le sol français en provenance du Maghreb.
Nous attendons vos réactions dès maintenant au standard 3210 3210.
Emmanuel Macron a été une nouvelle fois pris pour cible hier en marge d'un déplacement au Salon international de la restauration et de l'hôtellerie à Lyon. Un œuf a été lancé dans sa direction durant son bain de foule. Et puis dans le même temps, Éric Zemmour a une nouvelle fois fait l'objet d'une agression. Ça s'est passé en début d'après-midi. Il a été pris pour cible, boulevard de Clichy, dans le 18e arrondissement de Paris. Je vais vous citer exactement ce qu'a déclaré celui qui l'a agressé, entre guillemets bien évidemment, sur le Coran de la Mecque, je vais te fumer, a déclaré à un passant au polémiste. L'officier de sécurité de ce dernier s'est interposé. On est avec Bertrand, qui est un gendarme retraité à Dieppe. Bonjour Bertrand, que vous inspirent ces violences sur à la fois un homme politique, et quel homme politique, il est président de la République, et puis l'éditorialiste polémiste et qui sera peut-être candidat à la présidence de la République, Éric Zemmour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour. Ça m'inspire. C'est que la violence est partout, la violence maintenant touche les hommes politiques. C'est pas étonnant, puisque de toute façon, parfois aussi, certains hommes politiques peuvent être violents vis-à-vis de la police, que ce soit en mots ou en acte, hein, quand on voit M. Mélenchon lorsqu'il y a eu la perquisition et qu'il a dit « la République c'est moi », il n'a pas été très tendre avec les FDO, enfin les forces de l'ordre. Donc maintenant on banalise tout, c'est normal. Il fallait que ça arrive, c'est déjà arrivé. Mais bon, moi je pense qu'il peut arriver aussi bien pire.
C'est-à-dire ?
Rien ne dit qu'un de ces jours, il y a pas, même s'il y a un dispositif de sécurité, je ne dis pas qu'un de ces jours, il n'y aura pas quelqu'un qui...
C'est arrivé d'ailleurs dans l'histoire de France et dans l'histoire tout court mondiale, on sait qu'il y a des chefs d'État parfois qui ont été attaqués. C'est pour ça que vous dites c'est de plus en plus violent ou pas. Est-ce que la société elle est plus violente ou pas?
Oui, puis la société est de plus en plus violente. On banalise un petit peu toute cette violence. Vous avez une femme gardienne de la paix qui a pris un pavé en pleine figure, qui a pris 21 jours d'ITT. La condamnation du personnage, un black bloc, ça a été 12 mois de prison avec une peine de prison aménageable. Je pense que on marche sur la tête, quoi. Si on laisse faire ça et puis que on a le droit de balancer un pavé et puis qu'on se prend, finalement c'est pas bien, faut pas recommencer.
Mais par exemple, pour un homme qui lance un œuf sur le président de la République, selon vous, il doit être condamné à quoi?
Je veux dire, ce sont des personnes qui doivent être respecté, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. Il y a d'autres moyens de le faire. Bon, ceci étant, je vous dirais que personnellement, j'ai envoyé 3 lettres au président de la République, à François Hollande, qui a transmis à des sbires, à des ministres, etc. Il y a notamment, j'ai reçu un courrier comme quoi Emmanuel Barbe, qui a fait beaucoup de bruit en tant que délégué à la sécurité routière.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quelqu'un qui lance un œuf, par exemple, un jeune en plus, je crois, qui était inconnu des services de police, comme on dit. Il doit être condamné, selon vous ?
Oh ben, il y a une condamnation de principe à avoir. Après, bon, c'est un œuf. Il n'a pas sorti une arme létale. Il y a quelque chose. Un président de la République, ça se respecte, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. C'est quand même le personnage.
J'entends ce que vous dites. Moi, ce qui m'ennuie dans la société d'aujourd'hui, c'est que j'espère que cet homme qui a lancé un œuf, je ne vais pas le retrouver un jour sur un plateau de télévision. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau et qui peut être pervers d'ailleurs, c'est que l'homme
c'est
qui
le
a... c'est-à-dire que tu deviens un héros. C'est-à-dire que l'homme qui gifle le président de la République, il est peut-être content auprès de ses amis parce qu'on en fait un héros. C'est peut-être ça qui a changé dans la société. C'est-à-dire qu'il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, je ne suis pas sûr que... On se vantait de pareilles choses, alors qu'aujourd'hui, on peut le revoir. Donc c'est warholien, c'est le moment de gloire de certains, le quart d'heure de gloire de certains d'avoir fait quelque chose en dehors des clous.
Alors le problème aussi, c'est que les hommes politiques sont complètement déconnectés de la société. Ils vivent sur une autre planète. Là, il y a des gens qui sont capables de dire... Bon, je veux dire, comme moi, j'ai parlé, j'ai écrit, ceci étant, ça n'a jamais rien changé, puisque ceux qui sont payés par nos impôts n'ont même pas pris la peine de répondre à mes problèmes, hein, de la problématique que l'on a avec les transporteurs tricheurs qui magouillent pour les transports exceptionnels.
C'est pas vraiment notre sujet. La société. Alors, ils vous ont pas répondu, mais c'est un autre sujet.
Pascal, c'est que moi, je dénonce l'immobilisme d'un certain nombre de personnes qui sont payées avec nos impôts, mais moi, je le dénonce verbalement. Mais j'irai pas aller foutre ma main sur le museau de monsieur Emmanuel Barbe, du ministre des Transports, parce qu'il n'a rien fait, parce que pour le président, pour etc.
Moi, je n'irai pas. Merci beaucoup. Je vous coupe parce que il est 13h57 et je voulais que, avant 14h, on ait le programme de l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard, que vous connaissez.
Hello, bonjour. Pascal.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Et vous?
Ça va très bien. Alors aujourd'hui, dans cette société ultra-violente qu'on vient de décrire, il n'y a pas de sang dans l'heure du crime. Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas de meurtre.
Ah bah, c'est parfait.
Mais on a
ça
une...
s'appelle pas l'heure du crime.
Voilà, on a une personne au parcours totalement incroyable, rocambolesque et inouï. C'est le roi des escrocs, ou l'escroc des rois, comme il disait lui-même, Christophe Rocancourt.
Ah oui.
Voilà, toute une trajectoire hallucinante.
Incroyable.
Qui va d'ailleurs se forger, il va forger ses lettres de noblesse aux États-Unis avec 1,5 million de dollars qui auraient été détournés au total sur ses victimes, ses pigeons qui l'arnaquent à tout va. Puis ensuite, sa trajectoire va continuer en France. C'est totalement incroyable, c'est un film.
Il est où aujourd'hui, monsieur Rocancourt?
Aujourd'hui, il est chez lui en Normandie, il attend...
Il n'est plus en prison?
Non, il n'est plus en prison, il attend son dernier procès, qui est la queue de comète de ses méfaits en France, procès qui aura lieu dans les mois qui viennent.
C'est difficile pour lui de faire des affaires, j'imagine, quand il arrive, il dit « je m'appelle Rocancourt », c'est pas...
Oui, mais c'est un garçon brillant et qui a montré son intelligence, donc il a peut-être...
Enfin, je lui confierai pas mes économies quand même.
Ça, c'est autre chose, mais il a peut-être droit au repentir.
Côté, j'ai pas d'économie. Donc comme ça serait plus simple.
C'est réglé.
C'est réglé.
Le problème est réglé.
Comment ?
Le problème est réglé, ouais.
Exactement. Il est 13h58. Je pense que ça va être Agnès Bonfillon pour le Flash.
Tout à fait.
À tout de suite. Et bonjour à Romain Béchiot. Je sais pas si je vous ai salué, Romain.
C'est Damien.
J'ai dit quoi ?
Romain.
Ah oui, si je vous appelle Romain, l'affaire va mal.
Peut-être quelqu'un d'autre, mais...
Damien. Damien Béchiot. Damien Béchiot, pardonnez-moi.
Pas de souci.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
La Commission européenne appelle Volkswagen à indemniser les clients lésés par le scandale des moteurs diesel truqués dans toute l'Union européenne et pas seulement en Allemagne. La Commission qui souligne la mauvaise volonté du constructeur automobile qui veut jouer la montre en épuisant toutes les voies de recours judiciaire. Une trentaine d'élus locaux écrivent à Jean Castex. Ils dénoncent le mépris ressenti par la Seine-Saint-Denis après le déplacement de toxicomanes à la lisière de ce département. Ils demandent au Premier ministre de prendre les mesures qui s'imposent. Parmi les 36 maires, députés et sénateurs issus de gauche gauche comme de droite. Figurent entre autres le président socialiste du conseil départemental, Stéphane Troussel, ainsi que Bertrand Kern, maire socialiste de Pantin. Sanofi ne commercialisera pas de vaccin à ARN messager contre le Covid-19, mais entend tout de même utiliser cette nouvelle technologie contre d'autres virus. Le laboratoire français, malgré des résultats intermédiaires positifs, considère que son vaccin arriverait trop tard sur le marché, alors que 12 milliards de doses de vaccins anti-Covid auront au total été produites d'ici fin décembre. Les conséquences du Covid sur la santé mentale des Français. Après les mutuelles, c'est la Sécu qui va prendre en charge jusqu'à 4 séances chez le psychologue avec un plafond de 60 euros à chaque fois. Attention, pas chez un psychiatre, un psychologue, selon nos confirmations. Emmanuel Macron doit l'annoncer dans la journée. La météo demain. Demain, retour de la pluie sur une bande allant du sud-ouest aux frontières du nord. Ailleurs, de belles éclaircies avec toujours ce risque d'ondées quand même sur le littoral de la Manche. Près de la Méditerranée, le ciel pourra être voilé par endroits et doucement mais sûrement, les températures poursuivent leur baisse. Le résultat des courses à Compiègne, il fallait jouer le 2, le 8, le 5, le 11, hélas, le 2, le 8, le 5, le 11, hélas. La suite des auditeurs ont la parole à 14h03 sur RTL. C'est avec vous, Pascal Pro.
Merci Agnès. Vous avez joué à l'Euromillion aujourd'hui ?
Pas encore.
Vous êtes au courant de l'affaire ou pas ?
Mais ça y est, je viens de l'être.
143 millions ?
Je vais quand même tenter ma chance.
Ouais. 143 millions ?
On partage ?
Elle n'en a pas besoin, Pascal.
Mais non, mais c'est presque trop. Qu'est-ce que vous feriez avec 143 millions d'euros ?
Bah, c'est peut-être un peu trop, effectivement.
Partagez déjà.
Vous en donneriez à Damien Béchiot, par exemple ?
Non, sûrement pas.
Merci.
Non,
ah, bah, c'est agréable.
On va continuer l'émission, Pascal.
14h03. Si vous voulez intervenir, franchement, c'est un thème récurrent qu'on fait régulièrement quand il y a une super cagnotte. Qu'est-ce que vous feriez avec 143 millions d'euros si quelqu'un veut nous appeler ? Alors là, qu'il nous appelle, il n'y a pas de souci.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Je remercie Bertrand à qui j'ai coupé un peu la parole abruptement tout à l'heure et j'en suis vraiment désolé, Bertrand.
Oui.
Et voilà, je voulais vous remercier, mais parfois je coupe la parole, c'est pas agréable pour l'auditeur, mais le flash arrivait, je voulais entendre Jean-Alphonse Richard. Merci à vous, sauf si vous voulez conclure.
Non, c'est simplement, je vais simplement dire que les personnages politiques sont à la merci, effectivement, de violence, tout comme le sont tous les citoyens. Ils sont devenus des citoyens. Comme les autres, et malheureusement, ils ne sont pas à l'abri de violences et qui peuvent être plus ou moins graves.
Eh ben, merci beaucoup, Bertrand, et bonne journée à vous. Merci. Nous sommes avec Hervé, qui est artisan en Haute-Saône. Bonjour, Hervé.
Bonjour, monsieur Pro.
Toujours sur ce sujet du président de la République agressé et d'Éric Zemmour hier agressé.
Je trouve que c'est inadmissible. Un président de la République, ça se respecte. Moi, je ne suis pas du tout pro-Macron, mais. Voilà, c'est le président de la République, ça fait le tour, les images font le tour du monde. On passe vraiment pour un pays avec aucun respect, que ce soit sur les hommes politiques ou autres. Voilà, il y a le choix des urnes pour déjà se montrer son mécontentement, ce que les Français font de moins en moins, hélas. Après, sur Éric Zemmour, c'est le même problème. Il y a une liberté d'expression. On est quand même dans un pays où, heureusement, on a encore des libertés. Et ma foi, c'est inadmissible de pouvoir agresser les hommes publics, je dirais, quels qu'ils soient. Après, le problème, c'est que ils descendent un peu de leur bulle et puis ils sont confrontés à ce que une grande partie des citoyens, à l'heure actuelle, subissent journalièrement. Quoi. La violence, elle monte crescendo. On y va tout doucement, dans de gros, gros problèmes, dans d'autres problèmes. On voit quand même de plus en plus de jeunes armés qui s'entretuent avec des kalachnikovs ou bien un coup de couteau. Et donc on est... Hélas, ça risque de les réveiller un peu puis de les mettre un peu devant les problèmes que rencontre la société. Quoi. On y va crescendo. Mmh. Il y a 50 ans en arrière, je vous écoutais tout à l'heure, jamais on n'aurait osé lancer quelque chose sur le président de la République.
Ah, ne dites pas ça. Charles de Gaulle a échappé à je ne sais combien d'attentats. Dont l'attentat du petit Clamart ?
Oui, d'accord, mais c'était vraiment extrêmement rare. Maintenant,
mais c'était pas rien. Alors c'est vrai que c'était pendant une période particulière qui était l'OAS.
Assez mouvementé.
Exactement, mais le président de Gaulle a échappé à je ne sais combien d'attentat. Alors ensuite, Pompidou, je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose. Giscard, je ne crois pas non plus. François Mitterrand, il ne me semble pas. François Mitterrand, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on le voit dans ces années-là se balader très facilement dans les rues de Paris, sans beaucoup de protection, disons-le, où il allait dans les librairies, il allait sur les rives de la Seine. Et puis après, vous avez eu Jacques Chirac, je pense. Ah ben Jacques Chirac, si, quand même. Il y a eu Maxime Brunnery.
Qu'elle a essayé de lui tirer
voilà,
dessus.
Maxime Brunnery, un 14 juillet. Mmh. Donc vous voyez, c'est pas nouveau, bien sûr. Et puis Nicolas Sarkozy, on se souvient au salon de l'agriculture, quelqu'un qui refuse de lui serrer la main et il répond, ce qu'il n'aurait peut-être pas dû répondre ce jour-là. François Hollande a été enfariné de mémoire. Donc vous voyez quand même que et la sécurité d'un président de la République. Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est quand tu vois l'œuf, tu te dis ça peut être un boulon, ça peut être autre chose.
Ah oui, mais je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, il y aurait une catastrophe comme celle-là. Ou
il ne faut pas le souhaiter, mais...
Même pire qu'un... Mmh. Non, mais on est quand même dans ce système de société. C'est hélas triste à le dire,
mais la société, elle a toujours été violente. Vous le savez bien.
Pas à ce point-là.
Mais vous savez, là, il y a discussion. Je pense qu'elle est... Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on ne l'admet plus, au fond, la violence aujourd'hui. Précisément parce que la société est sans doute de moins en moins violente. C'est-à-dire que vous alliez à la fin du 19e siècle, vous sortiez de Paris, vous pouviez prendre un coup de couteau immédiatement. Et qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une courbe qui baisse depuis je ne sais combien de temps, c'est la courbe des homicides. Paraît-il, c'est une courbe, souvent Alain Bauer intervient sur ces sujets, elle baisse depuis 5 siècles quasiment.
Mais la société n'était pas la même. Les difficultés n'étaient pas les mêmes non plus. Il y avait d'autres causes, je dirais, qu'à l'heure actuelle, les causes ne sont plus du tout les mêmes. C'est quand même extrêmement inquiétant de voir des gamins qui s'entretuent avec des couteaux.
Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est nouveau. Ben, c'est nouveau. C'est-à-dire que ça n'existait pas dans les années 70.
Voilà, tout à fait. Moi, j'ai vécu longtemps à Montbéliard, qui était quand même le fief Peugeot avec. 45 000 salariés, on pouvait trimballer, se promener sans aucun problème dans les villes à Montbéliard, dans le centre-ville, ou dans les villes aux alentours.
Je suis d'accord, c'est-à-dire que la société est moins violente qu'il y a un siècle, mais elle l'est plus peut-être qu'il y a 30 ans. Voilà. Merci Hervé, merci beaucoup.
Merci à vous,
on continue après la pause, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent. Nous aimons la musique, Pascal. Nous aimons la chanson française. Alors, bon anniversaire à Brigitte Bardot.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
Mais aussi, joyeux anniversaire à Nolwenn Leroy. La fameuse danse des mains. Allez sur RTL.fr immédiatement. Ou sur l'appli.
Ça, c'est magnifique, ça. Mais vous ne savez pas ce que c'est que les fesses.
La danse des mains, c'est la même pour n'importe quelle chanson. C'est impressionnant.
Mais non, mais vous ne savez pas ce que c'est que les fesses en Bretagne. Vous ne savez pas ce que c'est que l'âme celtique.
Non
je rappelle que la Bretagne, je le dis parfois, j'hésite à le dire, mais je vais le dire quand même, la Bretagne existait avant la France, cher ami. Nous, Bretons, avons existé avant vous.
Eh oui, Damien.
Pascal, je sais bien.
Et nous avons été rattachés pour le meilleur, et bien sûr.
Que pour le meilleur.
Non, pour le meilleur.
Je
ne veux pas contester cette annexion. Il est trop tard maintenant. Mais bon, la Bretagne est rattachée à la France. C'est un fait, mais notre place, autrement, serait à l'ONU, qui sait, la Bretagne.
Ah oui, carrément.
On ne sait pas ce qui serait arrivé, on ne sait pas. François est là. François, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Et merci, vous habitez Deauville.
Oui, c'est cela, oui.
C'est cela de même, c'est cela. La violence. La violence à Deauville, c'est léger, il n'y en a pas beaucoup. C'est une ville calme.
Oui, les gens sont calmes. Les gens de Paris, c'est le 21e arrondissement, mais ils ne sont pas énervés quand ils viennent à Deauville.
C'est vrai. Ah oui, vous trouvez que c'est le 21e arrondissement à Deauville?
Bah, il suffit de regarder la route le vendredi soir.
Oui. Mais c'est les gens assez aisés quand même qui vont à Deauville, parce qu'il faut avoir une maison secondaire, forcément.
Oui, mais un petit peu aux alentours, c'est pas excessif. Hein. Je pense que les gens, il y a quand même un peu de gens lésés en France. Heureusement, il y en a pas assez pour payer la dette. Bon, voilà. Les gens sont un peu énervés, mais vous savez, bon, des fois, c'est des marginaux. Moi, je pense plus à des marginaux, mais regardez, il y a une campagne électorale qui arrive. Mmh. Eh bien, vous savez, c'est un système, Monsieur Macron, bon, il est président de la République, il faut le respecter. C'est une honte de faire des choses pareilles. Quand quelqu'un a été élu, il était élu par la démocratie. C'est une honte de faire ça. Ils n'ont qu'à se venger sur le bulletin d'urne. Mais le coup de ça, ces gens-là qui sont au pouvoir... Regardez, même Monsieur Zemmour qui arrive, ils font tous partie du système. C'est-à-dire qu'ils protègent toujours leurs acquis, toujours leurs régimes spéciaux. Il y a 620 000 élus. Quand est-ce qu'on va réformer cette France? Quand est-ce qu'on va arrêter le gaspillage? Regardez, là, ils vont augmenter tous les, comment je vais dire, le bois, ils vont augmenter le gaz, ils sont en train d'augmenter, ils vont récupérer la TVA de plus en plus pour payer le trou, la dette, à la place de réformer tout ce système que les gens en ont marre. Les gens en ont marre des politiciens. Regardez, ça fait 40 ans que ça devrait être réformé. Monsieur Mitterrand, quand il est arrivé, là, il a mis un million de postes de fonctions publiques en plus. Mais ce sont des impôts à payer après. Donc, à force, quand vous avez 60% de personnes qui touchent 1 600 euros par mois, quand vous leur en demandez de plus en plus, la société va s'énerver un jour. Il va falloir la réformer. Regardez le mammouth, M. Alain l'avait dit, mais quand est-ce qu'on réformera ce mammouth?
Non, mais
alors, les élections arrivent, il va rien avoir dans les programmes. Regardez M. Zemmour. Chapeau, M. Zemmour, il veut secouer le cocotier. Mais il y a une chose qui ne parle pas, c'est le gaspillage de l'État.
Si, il va en parler. L'argent public, il va en parler. Je vous assure.
J'espère.
Le vrai, en fait... Il faut même espérer, pour tout vous dire, que ceux qui n'aiment pas Zemmour ou ceux qui aiment Zemmour pourraient se rejoindre sur un point, c'est qu'ils proposent de parler de l'argent public.
Et on dis donc, ça va être le seul, hein.
Non, seul, hein. Mais non, mais tout le monde en parle, mais personne ne fait ce qu'il faut faire.
Attendez, ils viennent tous de la fonction publique. Il n'y a pas de gens du privé. Quand est-ce qu'on va avoir un président qui vient comme en Amérique, qui vient
du privé? Il vient du privé. Emmanuel Macron, il était chez Rothschild, il a été banquier d'affaires.
Enfin,
donc lui, précisément, il vient du privé. Mais c'est l'État profond. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que vous avez des systèmes, mais effectivement, il va falloir un jour s'attaquer à l'argent public. Est-ce que vous connaissez notre nouvel ami Olivier de Facebook, si vous nous suivez, François, tous les jours?
Non.
Pas
non.
Encore.
Mais c'est pas possible.
Non, je regarde pas Facebook parce que c'est.
Mais
c'est
celui
une façon
que...
de faire que j'aime pas.
Mais Laurent Tessier l'appelle Monsieur Boubouk, ça vous dit rien?
Je marque les esprits.
Oui, mais Facebook, je l'ai même pas.
Oui, mais c'est Olivier. C'est Olivier dit Monsieur Boubouk.
Mais c'est moi, François. Je vous ai eu au téléphone.
Ah oui, bon, bah, alors si c'est lui, là, merci, chapeau.
Ah oui, mais alors il faut quand même que vous imprimiez un peu.
Le compliment est un peu forcé.
On dirait un candidat des Républicains pour le moment. Vous n'imprimez pas, Olivier.
Non. Je serai un candidat pour les Français pour le gaspillage de l'État. Parce que les gens, un jour ou l'autre, ils vont en avoir marre à force d'être.
Mais
on appelle ça pratiquement comme du racket. Les écolos. Les écolos, si jamais ils prennent des voix qui rentrent dans un gouvernement, vous rendez compte?
Vous rendez compte, c'est ça,
c'est un programme de taxes, impôts, taxes. Ils n'ont que ça, ces gens-là. Alors, s'ils veulent plus d'impôts, les Français, parce que vous savez, les Français sont un peu naïfs, hein. Vous savez, ils voient un petit truc à la télé, ça y est, boum, boum. Hein. Mais le coup de ça, si les gens veulent des impôts et des taxes, il faut voter écolo. Il n'y a pas de problème.
Alors, moi, je voulais parler avec Monsieur Olivier de Facebook, qui voulait nous dire quelques mots sur ce qui se dit sur les réseaux depuis maintenant 13h.
Mais François n'a pas l'air fan de moi, en tout cas. Bon, alors on y va.
Mais il va le devenir.
Ah bon, super.
Parce que toute la France va vous connaître bientôt.
N'en faisons pas trop. Pour Franck, sur nos réseaux sociaux, cette violence décomplexée n'est plus admissible. Les politiques ne peuvent même pas se promener tranquillement dans la rue. Jean-Claude ajoute, ce qui est arrivé à Zemmour et Macron n'est que le cruel reflet de notre société. Et on conclut avec Monique qui pense qu'on médiatise trop ce genre d'actes. Les politiques ne sont pas du tout en danger.
Ah donc il y a deux danses des mains.
Il y a deux danses des mains. Il y a celle-là.
Ouais. Et la deuxième?
Et alors, et vous savez que si je gagne au loto ce soir, j'achète une cornemuse.
Ah.
Vous savez qu'un homme bien élevé, c'est un homme qui est, on le reconnaît au fait qu'il ne joue pas de la cornemuse en public.
D'accord. En tout cas, ce serait une belle cornemuse à 140 millions.
Je crois que c'est ce que disait. Je crois que Pierre Desbroches disait, on reconnaît un homme bien élevé, c'est un homme qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n'en joue pas.
Donc nous sommes bien élevés, Pascal.
14h18, l'Euro Million, c'est ce soir, jouez !
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Bon anniversaire donc à Nolwenn Leroy, bon anniversaire à Brigitte Bardot, qui nous écoute peut-être. Et on est avec Freddy.
Laurent Gérard.
Bonjour Freddy.
Bonjour Pascal.
Freddy, Euro Million, vous jouez ?
Alors moi je joue forcément parce que je travaille pour une entreprise, une grande entreprise française qui commercialise des joueurs. Je ne sais pas si on peut citer le nom, mais je travaille pour cette entreprise-là, voilà, qui vend et qui fait la promotion de ce jeu-là. Mais bien sûr que je joue, oui, bien sûr, parce que c'est une somme
et
qui fait.
Et vous jouez tous les jours les mêmes numéros ou vous faites un flash?
Alors moi je fais un flash plutôt. Voilà, je fais confiance, c'est complètement aléatoire. Alors je joue régulièrement des flashs. Voilà.
D'accord. Et vous jouez quoi qu'il arrive ou vous jouez quand il y a des grosses cagnottes?
Alors je joue plutôt quand il y a des grosses cagnottes, c'est vrai. Je suis pas un joueur régulier, voilà, mais quand il y a des grosses cagnottes, ben je me dis allez pourquoi pas. 100% des gens hein, qui ont gagné ont tenté leur chance, c'est un slogan célèbre, mais pourquoi pas.
Alors, d'accord. Et donc là vous avez déjà joué ce soir, vous jouez combien?
Alors moi je joue en général, je fais toujours 5 grilles.
Voilà, 5 grilles, donc c'est 12,50€.
Alors c'est 2,50€ la grille, il y a une petite option qu'on peut rajouter qui s'appelle l'étoile plus, qui permet d'avoir plus de chances de gagner. Donc,
donc voilà, 12,50€, 5 grilles. Bah écoutez, vous avez joué déjà ou vous y allez?
Alors j'ai déjà joué, ça y est.
Bon, bah écoutez, vous nous rappelez demain si vous avez gagné?
Ah ben écoutez, je vous appelle demain, puis on fera une petite fête à RTL. Voilà.
Bien sûr, 14h22, c'est l'heure du débrief. Je sais que nous, ça nous passionne l'euro million. Damien Béchiot, je pense qu'il joue.
Pas du tout, Pascal.
Non, il ne joue pas. Non. Je pense que Laurent Tessier
joue.
Je joue toujours les mêmes chiffres. Vous jouez toujours les mêmes chiffres. Monsieur Olivier joue, bien évidemment. Donc on est concerné par ça. Le débrief, à tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Mesdames, messieurs, nous vous avons proposé un nouveau programme avec Pascal Pro.
Poubelle, la vie à Marseille.
Dans le rôle principal, Patrick Ruet, secrétaire général force ouvrière des agents territoriaux de Marseille. La grève des éboueurs sur leur temps de travail fait parler. 3h30 par jour sur 6 jours selon un rapport de la Chambre régionale des comptes. Et vos échanges démarrent bien.
Combien de temps chaque personne travaille par jour?
Le temps de travail est comptabilisé, est annualisé.
Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par jour. Ça fait combien?
Non, ça, vous voyez, vous ne me posez pas les bonnes questions.
Bah oui, mais vous ne me donnez peut-être pas les bonnes réponses.
Ah, je sens qu'une belle histoire démarre entre vous, mais vous insistez, Pascal, vous ne lâchez rien.
Je voudrais simplement, moi, avoir les infos et j'y arrive pas avec vous.
Non, mais c'est-à-dire que quand je vous les donne, vous ne les entendez pas.
Je trouve qu'on fait un dialogue formidable.
Yann a été le premier à interpeller Patrick Ruet.
Mais c'est du racket, on n'est plus en République, la loi n'est plus la même pour tout le monde. Donc c'est un vrai scandale, si j'étais aux manettes, moi, je dirais, on envoie l'armée enlever les poubelles.
Ah oui, Yann est très cash, hein. Réaction de notre invité.
Vous voyez, monsieur Ruet, les journalistes sont plus doux, quand même, parfois, que certains auditeurs.
Ah, vous n'avez pas l'exclusivité des bêtises.
Bon, Philippe, au standard, en remet une couche.
On prend en otage les Marseillais. Nous, la taxe foncière, sur la taxe foncière, les ordures ménagères, c'est quasiment 20% de la taxe foncière à Marseille. Donc, c'est assez important. On la paye. Il n'y en a pas de service.
Et là, on se dit que Patrick Ruet, notre invité, ne va pas vouloir rester.
Monsieur Ruet, je vous garde encore quelques secondes, ça vous ennuie pas?
Voilà, mais pas plus, c'est parce que tu pourrais tellement que je déjeune, moi.
Alors Alain, prends la parole, bouché à Morteau, et forcément, vous la sentez venir, la question.
Oui, bonjour, Pascal.
Morteau, c'est célèbre pour la saucisse, je crois.
Exactement.
Donc j'imagine que vous vendez dans votre boucherie de la saucisse de Morteau.
Entre autres.
C'est bon?
Oui, voilà, moi je voulais intervenir.
Bon, parce passons très vite à autre chose. Bon, sinon Alain avait quand même des choses à dire à Patrick Ruet.
3h30 par jour, je pense pas que la pénibilité soit exceptionnelle quand même.
Mais vous savez, en matière de pénibilité, je trouve que cette personne est très pénible, effectivement.
Non mais... Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous laisse avec ces belles paroles de Bruno et Boer.
Je suis très fier de ce que je fais. Hein.
Mais ça s'entend, mais... Bruno, et vous avez bien raison d'ailleurs. Et vous avez bien raison d'être très fier de ce que vous faites.
Ah oui, si, je suis très fier. Je m'en cache pas du tout, hein. Mais alors pas du tout. Hein.
Les belles paroles de Bruno et Boer au 3210.
Mais cette émission est formidable parce qu'elle permet d'écouter des intervenants qu'on entendrait, qu'on écouterait nulle part ailleurs. Et c'est vrai qu'on a une émission particulière aujourd'hui avec Patrick Ruet et avec Bruno qui était plein d'émotions, qui vraiment, dans ces cas-là, je pense que les auditeurs, et nous tous d'ailleurs, si on est les premiers auditeurs, bien sûr, c'est vrai de Damien, c'est vrai d'Olivier, c'est vrai de tous les gens qui sont au standard, aime beaucoup cette émission pour cela, et c'est pour ça qu'elle dure depuis 1985. C'est une des plus anciennes émissions d'RTL. C'était Alain Cros,
bravo,
à l'époque qui l'avait lancée. L'heure du crime, cher ami.
Bon anniversaire bébé déjà.
Oui, Brigitte Bardot.
On l'oublie pas, Brigitte.
J'aime beaucoup.
Et aujourd'hui, le roi des escrocs ou l'escroc des rois, il n'y a pas de sang aujourd'hui dans l'heure du crime.
Non,
il y a Christophe Rocancourt, une trajectoire hallucinante des États-Unis jusqu'à la France. Comment obtenir le bon Dieu sans confession? Ben voilà, il a la recette.
Eh bien écoutez, ça va être un plaisir qu'on va vous écouter. Et 14h26, bonne émission Jean-Alphonse.
Merci.
Et je vous dis à demain.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.